Ça me fait penser, quand t'es venu faire la présentation École de Ciné là, de Toulouse, t'as profité de cette occasion pour faire venir le comité Vérité et Justice pour Milal.
Je suis hyper ravie d'arriver à des endroits où j'ai accès à des espaces de prise de parole, de présentation, etc. etc. Et du coup, bah, c'est la question de qu'est-ce que j'en fais maintenant. Notre profonde question anarchiste de une fois qu'on a le pouvoir, on en fait quoi? Et du coup, pour moi, c'était très important et c'était même impossible que je présente ce film dans ce cadre-là, que j'ai accès à cet espace de parole-là et que je le partage pas avec, avec une camarade et une famille et des personnes, avec, enfin, au-delà du fait que j'aime beaucoup, mais que genre, c'était comme impératif.
D'ailleurs, tu dis, nous sommes responsables de la lutte des camarades qui nous ont précédés. Est-ce que les morts d'aujourd'hui, en fait, font partie des morts d'hier aussi?
Ah oui, enfin, complètement, complètement. Et ils font pleinement partie, enfin, je sais pas, mais en tout cas, dans mon vivant, ils sont tout le temps là. Il n'y a pas un seul jour où ces personnes n'existent pas et n'existent pas moins que les autres. Ça me rend plus triste parce que je les vois moins, mais ça n'existe pas moins. Et je pense que dans le... Enfin, oui, moi, je pense profondément qu'on est responsable de la lutte des camarades qui nous ont précédés de manière large et aussi dans nos histoires intimes et particulières et personnelles et singulières. Et bah, moi, j'avais déjà dit dans une autre émission, je viens d'un daron qui est marxiste, bref, d'extrême gauche tunisienne, etc., etc., qui est mort, qui a été assassiné très jeune, enfin en tout cas à 45 ans, ça me paraît être jeune, et que du coup moi c'est vrai que, le sens que je trouve aussi dans tout ce que je fais, c'est tout au-delà de l'héritage immatériel qu'il m'a laissé, c'est aussi une manière de honorer, parce que j'ai vu de près les personnes qui sont parties avant nous, et du coup bah oui, c'est notre responsabilité de continuer de les faire vivre dans chaque geste et de faire vivre leur mémoire et leur lutte, de se l'approprier, de la déformer, de la dépasser, de la transgresser, parce que je suis certain que si on se mettait autour d'une table aujourd'hui, peut-être on serait pas d'accord sur des trucs, et c'est hyper chouette. Moi j'adore cet endroit où on devient vraiment camarade et du coup on se critique, et c'est une manière de poursuivre ce truc là et pour la petite histoire, tu vois, genre quand j'ai regardé les images de la caravane partir, du coup qui est partie de la caravane de la résilience qui est partie depuis Tunis, et ben sur une des vidéos, je vois le meilleur ami de mon père. Je vois son camarade. Okay. Et je le reconnais avec son keffieh, son chapeau de paysan de chez nous, etc. Et là, il est à la frontière égyptienne. Bon, ben voilà, moi, ça me dit tout ce truc-là. Enfin, je le connaissais, j'étais enfant. Et du coup, c'est ce truc de oui, on est responsable de la lutte des camarades qui nous ont précédés. Et moi, j'ai envie, en tout cas, de m'inscrire dans cette continuité-là parce que je pense qu'il y a des ponts à faire au-delà de des espaces. Des points à faire vraiment dans le temps, et que le temps il est pas assez analysé, comme c'est trop un monde à prendre aussi et à révolutionner.
Toi, l'outil que tu utilises, c'est de raconter des histoires visuelles, sonores, enfin tu t'empares vraiment de multiples techniques, c'est une nécessité. On en a parlé tout à l'heure un petit peu de cette question de santé mentale, comment survivre au monde, de le traverser sans s'effondrer. Il y a plein de façons de raconter des histoires, de donner des clés de compréhension pour que les histoires soient partagées, transmises, ressenties, sans trahir, bien sûr, mais il faut parfois traduire. Et là, ça nous amène au langage, qui est aussi un thème fort, en fait, chez toi. Tu dis, venez, on apprend dans notre propre langue et selon nos propres codes, comment on vit nos sexualités, nos genres, sans avoir besoin de poser d'autres mots que même le silence. Parce que parfois, le silence, c'est un mot comme un autre. Alors, si je comprends bien, t'es un peu super radical, hein, puis le silence peut être aussi un mot, donc c'est quand même difficile, toi. Cette notion de langage.
Enfin... Ouais, elle est fondamentale. Mais elle est fondamentale du fait d'abord que je dois réfléchir depuis l'endroit où je me situe, qu'il est que bah, dans mon quotidien, je parle une langue coloniale. J'ai appris à réfléchir, à poser mes émotions, à poser mes analyses, à poser ma pensée, à avoir des discussions dans une langue qui n'était pas la mienne. Moi, je suis née, je parlais arabe. J'ai appris le français, j'avais 6 ans. J'ai appris à écrire français, j'avais 6 ans. Après ça, j'ai fait des études. Ça veut dire que j'ai appris à parler mieux que le blanc. Je pense que je sais utiliser des mots de 4 syllabes, il n'y a pas de problème. Je sais écrire de la théorie de la même manière que je pense savoir écrire des 16 de rap, etc. Je sais parler comme je parle avec mon langage, il s'adapte à l'endroit où je suis, etc. J'ai appris à manier ce truc-là et du coup à dénaturer sa puissance aussi, à dénaturer sa force. Un truc de... Moi, j'adore, par exemple, faire comme si je savais pas faire comme si je savais pas écrire, et en même temps c'est doublé d'une perception raciste, somme toute très ordinaire, de tous les gens souvent sont surpris de voir que waouh, tu parles bien, Waouh, tu écris bien. Ouais, d'accord. Et évidemment, du coup, partant de ce principe-là, que, y compris de ce fait, dans ma famille, on parle des langues différentes. Et que ça, je pense que quand on est enfant, c'est un truc qu'on perçoit sans arrêt, avec aussi le truc de honte qu'on nous met autour de sur nos grands-parents, nos parents qui ne savent pas parler français, etc., etc. Moi, je me souviens d'avoir ressenti cette honte quand j'étais jeune. Et que pour aujourd'hui, genre jamais de la vie, et au contraire, je le porte comme une fierté, comme un honneur. Tu vois, c'est un truc de qui résiste, de tu peux passer 60 ans en France et tu n'auras pas perdu ton arabe. Mais je trouve que c'est le plus beau de tout. Et du coup, partant de ce truc-là, évidemment que le langage, il est fondamental, parce que je ne vais pas non plus laisser des choses, des films, une pensée, je ne sais pas, des histoires qu'on me raconte, etc., dans la langue du colon. Ce n'est pas possible. Genre, il y a un truc de... Ça serait comme un contresens presque à tout le travail que je fais. Et du coup, ce n'est pas de dire, de rejeter en bloc, par exemple, le français ou quoi. C'est plus d'aller chercher déjà comment le français a été déformé par nos perceptions, nos vécus, comment il a été construit par l'arabe, ce qu'on appelle l'argot aujourd'hui. En fait, c'est une langue complètement en soi, hyper poétique, et comment on fait pour la mettre à même niveau que les autres, et ainsi de suite. Et qu'après, moi, je pense profondément que, bah oui, si j'ai envie d'écouter des histoires, de raconter des histoires, etc., et je dois faire l'effort et prendre la responsabilité de comprendre c'est quoi la langue que parlent les autres, et que les langues qu'on parle, elles sont d'abord construites depuis les histoires qu'on a vécues. Pour moi, profondément, la langue commune, c'est la musique. Et je reviens à ce qu'on disait au tout début, tu vois, il y a un truc de la musique, ou qu'elle soit, etc. Pour moi, c'est ça le langage commun de base. Et après, pour moi, l'idée, c'est pas tant de parler une langue commune que plus de... Tu vois, genre mon rêve, moi, quand j'étais petit, c'était de parler le plus de langues possible pour pouvoir lire les livres dans leur langue d'origine. Et du coup, bah, de la même manière, j'ai appris le français, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, j'avais appris un peu le russe, un peu le japonais. Il n'y a pas longtemps, je me suis mis au portugais. Enfin voilà, tu vois, il y a un truc de c'est plus... plutôt que de réduire à un commun, de démultiplier les trucs. Et je pense qu'on a largement la capacité d'avoir plein de langues en tête.
Mais de quelle place on parle quand on n'est que faille, quand on ne sait que faire, qu'on rêve que de se tailler. La bonne façon est pas, la bonne façon l'a pas. Alors au fond de mes entrailles, la ruspice me lira. Au bord d'un précipice, j'observerai les pas. Avec le sang du sacrifice, je marquerai l'état. Du mien ne restera qu'une envie de vendetta. J'ai bouclé dans l'appart en écrivant des tas. Tapis dans l'ombre du vide, j'ai le regard livide. J'ai du dégoût pour ce monde qui nous écrase depuis Kid. Et qui nous rassurera sur le sens de tout ça. Ça fait longtemps qu'on est en crise, qu'on a des doutes à tout va. Tous les coups qu'on n'a pas mis, je les ai gardés au fond de moi. Tout l'amour que j'ai pas dit, je l'écrirai dans mes mémoires. Chaque nuit, j'ai l'espoir qui combat le cafard. Chaque matin, j'attends la fin, j'attends le grand soir. J'atteindrai même pas le quart de ma voix, mes rêves tard. Je ferai semblant d'être à part en grattant mes tracas. Supportant le parpaing caché sous la parka. Un parcours pas marquant, mais une histoire qu'on ne rêve pas. Une histoire qu'on ne rêve pas. J'ai pas trouvé ma place, pas trouvé de passe-passe. Décorer ma carcasse et recoller ce qui casse. J'ai pas laissé ma trace, j'ai qu'entassé de la paperasse. Des mots volés au fond de la cage, j'ai qu'enlacé ce qui me tracasse. J'ai pas trouvé ma place, pas trouvé de passe-passe. Décorer ma carcasse et recoller ce qui casse. J'ai pas laissé ma trace, j'ai qu'entassé de la paperasse. Des mots volés au fond de la cage, j'ai qu'enlacé ce qui me tracasse.
Donc, est-ce que pour toi, le langage du cinéma, c'est une autre possibilité de compréhension, un moyen de parler sans devoir poser tous les mots, justement? Et est-ce que filmer, c'est une manière d'ouvrir un espace de perception plus libre?
Ouais, carrément. Oui, pour moi, c'est un langage en soi. La même histoire camionneuse, si je l'avais racontée en roman, si je l'avais racontée en poésie, si je l'avais racontée en podcast audio, etc., ça aurait pas été complètement la même chose. Et du coup, le langage cinéma... Il me permet justement d'aller à des endroits de sensorialité qui sont pas forcément accessibles par les mots et tout et tout. Quand même, quand tu fais un film, en vrai, t'es en train d'obliger quelqu'un à regarder quelque chose sans rien faire. Du coup, tu prends un peu en otage les gens. Et du coup, bah, tu parles pas pareil que si c'est un livre où on doit un peu faire l'effort de qu'est-ce qu'on est en train de lire, de comprendre, etc., etc., etc. C'est pas le même rapport. Mais du coup, oui, pour répondre à ta question, c'est un langage, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. J'ai l'intuition qu'il faut aller le creuser, parce que de fait, je sais pas, tu vois, genre... oui, on fait des photos, oui, on filme des choses, etc. Et que ça vient pas de nulle part, que ce soit quelque chose qu'on investisse. Et que du coup, moi, j'ai un peu envie d'apprendre pourquoi, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça et de raconter des histoires à travers ça.
Et j'ai vu un film qui s'appelle Amal. Déjà, le réalisateur, il faut le dire, c'est Jawad Khalib. Et ça aborde de front l'homophobie dans l'islam. Bon, tu l'as pas vu, donc on va pas débattre autour du film. Voilà, ça m'a pas mal questionné. Et comment faire, en fait, pour pas aborder un sujet sans stigmatiser. Et là où je voulais t'amener, dans l'interview, toi, tu as parlé, dans le cinéma, comment les corps non blancs homosexuels sont ultra fétichisés de façon à peut-être rendre un peu blanc ou plus blanc, en gros, l'homosexualité.
Qu'il y a un truc, moi, je pense, qui m'agace un peu, ou en tout cas qui me fait... Bon, si je prends le côté un peu humble et que je dois quand même un petit peu être humble, de les films qu'on fait, ils existent contextuellement. Il y a un contexte dans lequel ils sont faits. Et du coup, c'est quoi faire un film avec un pitch pareil sans être ultra rodé dans le contexte islamophobe actuel? Moi, par exemple, je sais que le contexte politique et le contexte social, ils conditionnent clairement qu'est-ce que je vais ou pas raconter. Et évidemment, il y aurait plein de trucs à raconter, mais ça ne m'intéresse pas du tout de venir brosser mon ego dans un truc de « Ouah, j'ai un peu l'idée de génie du siècle et le truc un peu transgressif et que nanana ». En fait, non, ils ont un rapport contextuel, c'est matériel de faire un film. Et c'est complètement un leurre et complètement, je sais pas, égotripique ou j'en sais rien, de penser qu'à un endroit ton film va pas t'échapper. Un film, ça ne fait que échapper à celui qui l'écrit et qui le réalise. Et si on n'est pas rodé sur ces trucs-là, on va faire qu'alimenter la machine. Et je suis pas en train de dire il faut se censurer, pas faire les films, etc. Non, je dis il faut les réfléchir contextuellement. Il faut prendre en considération la matérialité qui précède le film, de la temporalité du film et de ce qui se passe après. Et en fait, prendre notre part de responsabilité, parce que c'est pas possible de se trahir les uns les unes les autres comme ça. Ça, c'est le premier truc. Bon, ma pensée est méga marxiste, finalement.
Ça fait trois fois que tu l'as donné.
Pourtant, ce n'est pas mon seul ADN, mais il y a quand même des outils d'analyse qui sont très, très, très opérants et qu'il faut prendre en considération.
Anarchiste, une fois. Ah. Il faut remonter.
Ok, très bien. Et après, sur le fait de les corps non blancs homosexuels, notamment, la manière dont ils sont filmés. C'est une question qui me traverse et qui m'a traversée parce que forcément, c'était l'endroit où on m'attendait. Et que ça, je l'ai très vite senti. J'ai très vite senti que c'était l'endroit où il fallait que je sois. Moi, qui suis homosexuel, arabe de quartier populaire, dois forcément aller faire des films pour parler de l'homosexualité des arabes de quartier populaire, etc., etc. Et juste parce que j'ai senti très vite que c'était, tu sais, au bout d'un moment, on grandit et on commence à avoir les intuitions de c'est quoi les attentes des gens réels dans le fond, etc., etc. Juste parce que j'ai senti que c'était l'endroit où on voulait que j'aille, j'ai eu mon alerte et red flag dans ma tête, red flag, encore communiste, pardon, j'arriverai au black flag après. Mon côté un peu insolent a dit, bah, c'est exactement l'endroit où je vais pas aller. En fait, non, en plus, je peux être un homosexuel de quartier populaire arabe et parler de toute autre chose. J'ai un point de vue sur le monde qui n'a pas à être qu'essentialisé. Et du coup, à force, quand même, ça m'a fait réfléchir, mais déjà en amont, parce que c'est des réflexions que j'essaye d'avoir depuis longtemps sur cette notion de coming out slash pudeur, de comment elle se raconte aussi l'homosexualité chez nous, dans le monde arabe. Est-ce que... Enfin, je sais pas, moi, toute ma vie, on m'a dit que pour être un bon homosexuel, il fallait s'être outé auprès des siens, de sa famille, etc. Mais en fait, il y a 8 milliards de manières de s'outer, de dire, de pas dire. Il y a 8 milliards de langages possibles. Moi, j'ai besoin d'exister dans la langue de celles qui me comprennent aussi et de pas leur imposer une langue exogène. Et qu'il y a déjà tout ce truc, tout ce rapport-là à la pudeur qui, pour moi, est vraiment fondamental et essentiel. Dans ce truc de aussi, j'ai pas envie de montrer... l'image de ça y est, je fais des trucs un peu publics, etc. Et du coup, je suis un bon homosexuel arabe parce que j'ai dit que j'étais homosexuel et arabe. Non, tu vois, il y a un truc de... Je sais pas. Faut se ménager les uns les unes les autres et aussi trouver d'autres manières de dire sans avoir à dire. Que aussi, je pense profondément que la figure de l'homosexuel arabe, et notamment, moi, je parle depuis mon endroit, c'est-à-dire celui de personnes masculinisées, etc., etc., c'est le racisme islamophobe classique de « on est les Arabes inoffensifs ». Du coup, évidemment qu'il y a une espèce de fascination, etc., parce qu'on est l'Arabe qui ressemble à un homme, mais qui n'est pas totalement un homme, qui est complètement inoffensif. Et du coup, ça, pour la blanchité, notamment le fantasme blanc c'est jackpot, quoi.
Ça questionne encore le langage. Effectivement, comment nommer les choses et la pression de devoir le faire.
Carrément. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire, que j'avais essayé un peu de le tenter. On a essayé de se chauffer, etc. Et il y a un gros travail à faire de comment est-ce que ces choses-là se disaient avant la colonisation. Et je pense que déjà, si on arrive à avoir cet endroit-là, ça va transformer énormément de choses dans nos perceptions, nos manières de dire, etc., etc. Et tu vois, genre, par exemple, moi, il y a plein de gens, ils disent « oui, queer, oui, si, ça, ça, hey, c'est pas des mots que j'utilise, hein, parce que c'est pas mon histoire. Moi, je viens pas des États-Unis, c'est pas mon histoire. Par contre, moi, aujourd'hui, j'utilise homosexuel dans un truc de « bah oui, je me reconnais dans les luttes homosexuelles des années 70, et du coup, ok, je vais utiliser ce mot-là. » Ou alors, utiliser les mots par lesquels on m'insulte. Sale PD, ok, d'accord, je suis PD, il n'y a pas de problème. Mais par contre, enfin voilà, tu vois un peu les mots marketing, etc. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est ce truc aussi de d'un côté, il y a comme l'homosexualité non blanche serait comme de devenir inoffensif aussi en tant que personne non blanche, et du coup de plus fitter avec la blanchité. Il y a un truc de presque c'est le monde blanc qui nous sauverait là-dedans. Du coup, ça, dans la perception plutôt des milieux queer, moi, que je connais, en tout cas, blancs, majoritairement. Et de l'autre côté, chez nos frères et nos sœurs non-blancs, il y a ce truc de comme si l'homosexualité était quelque chose d'exogène, comme si c'était notre héritage blanc, comme si tout d'un coup, ça nous rendait blancs. Et nous, on est tout le temps en train de batailler entre les deux trucs. Et du coup, à mes camarades hétéros, non-blancs, j'ai trop envie de leur dire, mais questionnez aussi votre hétérosexualité. Elle a été construite en France et en Occident. Elle n'est pas moins blanche que mon homosexualité.
Et alors, tu vois, moi, j'ai voulu ramener au voyage, au déplacement permanent, et que ça ne rejoint pas aussi ta propre trajectoire dans ton identité de genre. C'est aussi un voyage.
Bah carrément. Moi, tout m'a échappé, hein, parce que moi, j'étais partie pour avoir multiples identités partout, qu'on me foute la paix, qu'on ne m'oblige pas à utiliser quelle langue, etc. Et que là, en vrai, je suis un peu en train de prendre la claque de... Ok, ça implique quoi de devenir quelqu'un, de comme publiciser public, de parler en public, de devoir raconter les choses, d'être attendu sur des choses, mais aussi de faire du bien à des personnes sur d'autres choses et d'essayer de doser la notion de responsabilité, sacrifice, etc., de qu'est-ce qui me fait sens et tout et tout. Bon, et là, en fait, moi, au début, j'étais pas partie pour dire de parler d'homosexualité. J'en ai même pas encore parlé avec ma famille. Mais maintenant, on y est, ma foi. De savoir aussi pourquoi j'en parle et de continuer de faire ce truc d'en parler avec pudeur. Parce que je suis pas du tout en train de dire que ce serait pas accepté par ma famille, pas du tout. Hein, parce qu'il y a d'autres manières que ça a été dit de plein d'autres manières, de 8 milliards d'autres manières qui font que moi, je cohabite hyper bien avec cette manière de faire là. Mais qu'il y a un truc, du coup, où là, je me retrouve à un endroit où je suis obligée un peu de poser des mots. Mais parce qu'en fait, notre travail, c'est toujours d'expliquer notre travail. C'est chiant.
Mais avec pudeur.
Mais avec pudeur.
J'ai ni l'écrou, ni le micro, j'ai que la race dans l'écho. J'ai que la peur dans l'ego, la faiblesse dans l'ego. J'ai le rap pour me rappeler qu'on a la passion des pauvres. Et j'ai le pote pour oublier qu'on a la tête dans les taux. On pourra se coucher tôt, avoir le débat qu'on évite. Les rêves de corps qu'on évite, avec les potes qu'on mérite. Je ferai l'histoire dans ma mémoire, dans les cauchemars qui m'habitent. Je serai la gloire, la bête de foire qu'on invitera pour un feat. Si les textes je les ai crachés pour les amours qu'on abîme, c'est que j'avais que des morceaux pour remercier toute la team. C'est que j'avais que ça pour remplacer mon journal intime. C'est que j'avais ni rêve ni peur, j'attendais même pas un signe. Et c'est finement que je vais me saigner pour un avion de papier. C'est dans l'album que je vais glisser tous les bas-fonds de mes pensées. Quitte à me cacher, autant lâcher les cris, les secrets d'une vie. Quitte à froisser, autant régler les comptes des gens les plus vifs. C'est pour finir qu'on a marqué d'un papillon le pavé. Je l'aurais pas cru pour un pari qu'on sortirait un CD. C'est mon CV, c'est tout le parcours que représentent les sommets. C'est éphémère, mais ça confirme que le bon Bix n'est pas mort. J'ai pas trouvé ma place, pas trouvé de passe-passe. Décorer ma carcasse et recoller ce qui casse. J'ai pas laissé ma trace, j'ai qu'entassé de la paperasse. Des mots volés au fond de la cage, j'ai qu'enlacé ce qui me tracasse. J'ai pas trouvé ma place, pas trouvé de passe-passe. Décorer ma carcasse et recoller ce qui casse. J'ai pas laissé ma trace, j'ai qu'entassé de la paperasse. Des mots volés au fond de la cage, j'ai qu'enlacé ce qui me tracasse. J'ai pas trouvé ma place, pas trouvé de passe-passe. J'ai pas laissé ma trace, j'ai qu'entassé de la paperasse. J'ai qu'enlacé ce qui me tracasse, j'ai pas trouvé ma place. J'ai pas laissé ma trace, j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas trouvé ma place.
Là, je travaille sur l'écriture d'une série documentaire d'histoire, cette fois avec une boîte de prod super chouette, sur l'histoire des luttes de l'immigration et des banlieues de 45 à nos jours, et ce serait plutôt un format jeune public. Et avec ce truc où... Alors moi, j'ai appris et capté qu'en fait, les réals, genre quand on fait du cinéma, on regarde un peu la télé de haut. Et moi, comme je viens quand même d'une culture très télé, bah en fait, la télé, c'est super, c'est le service public et ça serait bien de ne pas le laisser qu'à l'extrême droite et du coup, de continuer de faire des trucs dedans. Du coup, j'ai très envie de faire cette série jeune public sur l'histoire et dans un souci d'archives et puis de documentation et puis transmission, etc., etc. Et alors là, pareil, nouvel outil dans mon carquois.
Trop bien. Ça c'est pour impressionner ça. Les blancs quoi.
Je sais utiliser les mots, je connais les mots, je connais les termes. Et là j'ai commencé la coécriture d'une pièce de théâtre cette fois qui mélangerait théâtre et cinéma et avec le collectif Offense. Et le postulat de départ, c'est à quoi est-ce qu'on rêve sous fascisme ? Et du coup, mon camarade était parti du coup, de l'intuition de la lecture d'un livre de Charlotte Perrat qui s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich », dans lequel Charlotte, moi j'ai pas encore lu le livre, a collecté plus de 300 rêves de personnes juives entre 33 et 39, je crois, dans un truc de dire « c'est des preuves d'histoire, c'est des preuves historiques, etc. » Et du coup, partant de cette intuition-là, et moi j'avais déjà commencé à travailler sur le rêve où j'avais capté pour moi et pour plein de camarades non-blancs, et notamment arabes, comment nos rêves s'étaient transformés depuis octobre 2023. Et de là, bah, ça a fait une espèce de connexion de « hey, et si on écrivait un truc autour de c'est quoi dans nos rêves et nos nuits, etc. » aujourd'hui, tandis que le fascisme, il est un... pleine montée, pleine ébullition, etc. Du coup, ça, c'est l'autre projet hyper improbable de faire du cinéma pour le théâtre. Ça va être super.
Merci d'être revenu ici à Canal, pas exactement du même côté du studio.
Ah, chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir.
Waouh.
Voilà. Et du coup, ça me permet de lâcher un dernier Tahia Palestine. Et,
Là, rideau après ça, c'est clair. Très bientôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salut. Ciao. Bye bye.
Qui va venir me dire qui je suis? Après tout le temps que j'ai mis à me trouver à Galbine, Staffed Beak. Le vide autour de moi, j'ai besoin de respirer. Un peu trop sérieuse dans mes chansons, besoin de sourire et de dire merci. En concert, je me sens à la maison, Gaëlle Estrani, c'est ça d'être en vie. Fuck, un facho tous les jours. Dardam dit que des vieilles du quartier la regardent mal. On m'a éduqué dans l'amour, mais papa met un middle à celui qui me parle mal. Moi, je suis trop fucked up, j'ai arrêté le pilon et la clope. Une princesse que dans ma chambre, et pour la musique, je crois que je deviens folle. Nectar, Brissala. Princesse, fais peur aux garçons, m'en fous de la leçon. Est-ce que le monde, je veux le manger? Mes dents ont-elles été assez aiguisées? Bien sûr que oui, je fais de la boxe taille, gère mes attaques comme bateau saille. Et je m'accroche au même rêve que j'avais quand j'étais môme, mais que déjà je savais. Et moi, tous mes amis connaissent les paroles quand mon tour arrive. Je me suis affaire, ministre, mon sous, mon lit viennent de la vraie vie. J'ai pris tellement de temps à mes mecs, maintenant pour mon entourage, il va à donner. Surmonter les épreuves que mon cerveau a bâti sans les mettre dans un doré.